On a un passage devant nous ce matin qui est bien connu. On va commencer le chapitre 4 de l'évangile de Jean, si vous voulez vous y tourner. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu nous donnes la possibilité de toujours la consulter, de toujours la lire, l'étudier, la méditer, te demande de nous aider à la mémoriser, mais surtout à la mettre en application dans nos vies. Oui, Seigneur, on te demande de bénir ces moments, on te demande de bénir aussi le baptême après le culte et le temps de communion fraternelle avec ce repas partagé sur la plage, Seigneur. Merci de ce que nous pouvons vivre dans la simplicité dont il est question dans notre passage aujourd'hui. Merci de nous aider à en tirer les leçons que tu veux que nous en tirions, Seigneur. On te remercie pour le travail de ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, aujourd'hui encore. On te remercie pour la liberté que nous avons encore dans notre pays que de témoigner librement, d'engager les personnes qui nous entourent dans des conversations spirituelles pour les mener à toi. Sois béni, Seigneur, pour toutes les églises de cette ville, fruit de ce travail de ton esprit, toutes celles qui t'adorent en esprit et en vérité, comme nous allons en parler ce matin. Bénis-les, fais-les grandir, encourage-les, fortifie-les, protège-les. Que le peuple qui t'appartient dans cette ville soit touché et soit mis en contact avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui aime nos âmes et qui est mort pour nous, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs ce matin, dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de la pastorale, Seigneur, sois béni, parce que tu as plein de bons projets, Seigneur, des projets de vie, des projets de ton esprit à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. On va lire ensemble le début du chapitre 4. Je lis dans la version second 21, qui est la version que vous pouvez lire si vous levez la main, on vous en amènera une, mais je crois que Sébastien a déjà passé les Bibles. Le Seigneur, verset 1, chapitre 4 de l'évangile de Jean, le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau ? Lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Encore 4 versets. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. On va s'arrêter là, en premier temps. Un épisode bien connu de la vie de Jésus. Un épisode que vous avez sans doute lu, étudié, et comme toujours, dans les passages très connus, il faut faire attention de ne pas penser qu'on a déjà tout épuisé, qu'on connaît l'histoire, alors on peut se mettre en veilleuse, commencer à penser à ce qu'on va faire cette semaine ou cet après-midi. C'est toujours un danger avec les passages bien connus, mais en même temps, il y a toujours plusieurs façons de lire un passage. On se rappelle que Jean a écrit cet évangile. Il nous dit dans Jean 20, 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est pour ça que souvent on donne l'évangile de Jean aux nouveaux croyants ou ceux qui veulent en savoir plus sur l'évangile, sur Dieu, sur Jésus, parce qu'il a été composé sous la direction de l'Esprit-Saint pour justement répondre à ces questions, savoir est-ce que Jésus est le Messie. Et qu'est-ce que croire en son nom peut nous apporter? Là, on voit en fait Jésus qui nous donne une leçon. Aujourd'hui, il est de bon ton, même parmi des chrétiens aguerris, de dire « Moi, l'évangélisation dans la rue, c'est pas pour moi. » Il faut prendre des gens un peu fêlés, qui aiment bien passer leur temps à parler aux gens sans nécessairement voir de résultats. Et il y en a qui disent, moi, l'évangélisation, c'est seulement l'évangélisation par l'amitié. Et c'est une très bonne chose. Je ne suis ni pour l'une des façons ou pour l'autre. Mais là, on voit que Jésus fait de l'évangélisation dans la rue. Alors, d'accord, c'est pas, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de trottoir, mais il rencontre quelqu'un qu'il n'avait jamais vu avant et il engage une conversation pour montrer que Jésus est le Messie. Et en fait, je veux tous vous encourager, alors pas nécessairement à venir faire cela dans la rue, quoique si, je sais qu'il y en a qui le font, certains qui ont beaucoup de plaisir même. Alors là, on peut faire la distinction entre le don d'évangéliste et le travail d'un évangéliste. On est tous, que vous le vouliez ou non, appelés à faire le travail d'un évangéliste, c'est-à-dire à partager notre foi. On n'est pas des agents secrets, on n'est pas là pour garder quelque chose et peut-être le partager avec certains, mais on doit être ouvert à partager notre foi avec tous ceux qui nous entourent. Si vous n'avez jamais fait, je vous invite à prier. Seigneur, donne-moi une personne aujourd'hui avec qui partager ma foi. Vous dites, mais je ne suis pas chrétien depuis très longtemps, je n'aurai pas les réponses à toutes les questions. Peu importe, vous en savez déjà beaucoup plus que quelqu'un qui ne connaît pas du tout Jésus, qui ne connaît pas du tout le salut en Christ. Et Jésus vous invite à parler aux autres. Et dès que vous le faites, vous apercevez qu'en fait, c'est très facile d'engager une conversation. Alors c'est vrai que ça se cultive, et qu'après on peut même y trouver un malin plaisir. Le mot malin n'est pas souhaitable, mais vraiment de la joie à parler de ce qui est le plus cher pour vous. Si vous êtes vraiment un croyant en Christ, votre première valeur, c'est votre premier trésor dans la vie, c'est votre relation avec Christ. Et pourquoi est-ce que vous garderiez ça comme un secret ? Alors on ne vous demande pas de faire une exposition, de partir de la Genèse, de coincer les gens et de leur faire lire tout un des passages et de les faire repentir. Non, on va voir comment Jésus procède. C'est un modèle. On est quelques-uns à faire de l'évangélisation dans la rue. On aime bien utiliser des questionnaires. Jésus lui pose un questionnaire qu'il a en tête. Et c'est encore mieux si vous n'avez pas besoin d'un papier, mais il y a des façons très simples. Vous pouvez avoir des petits traités à donner aux gens. Et je sais qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'être utilisé par Dieu pour amener des personnes à Dieu. Et donc, on va regarder plus en détail la façon dont notre Seigneur procède. Il était, bien sûr, le meilleur des enseignants. Il est très simple dans son approche. On va reprendre un peu le texte. On avait évoqué la compétition que certains voulaient voir entre Jean-Baptiste et Jésus, parce que Jean-Baptiste était connu comme celui qui baptisait les gens dans le baptême de la repentance. On va dire quelques mots du baptême à la fin du culte. Mais c'est vrai que dans certains mouvements, le baptême c'est un aboutissement, c'est presque comme la remise d'un diplôme de connaissance biblique, alors qu'en fait, quand on lit la Bible, quand on lit notamment l'évangile de Jean, on voit que les gens venaient se faire baptiser comme signe de vouloir une vie nouvelle. Là aussi, ils ne savaient pas tout ce qu'il y avait à savoir, mais c'était leur cœur qui voulait se détourner d'une vie tournée vers le péché pour se tourner vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est un changement de direction. On en a parlé récemment. Et il y avait donc Jésus qui avait commencé. Jean l'avait présenté, lui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». On a vu en fait que c'était un pasteur qui avait perdu toute sa congrégation, Jean. Mais ça ne le gênait pas parce qu'il savait que lui, il fallait qu'il décroisse pour que Jésus croisse. On a dit que ça devrait être la devise de toutes nos vies. Dans ma vie, ce que je veux, c'est que je veux décroître et je veux que Jésus croisse. Quand on me voit, quand on parle avec moi, il y a de moins en moins de Pierre, avec Pierre le pêcheur, le plus mauvais des pêcheurs, et qu'il y ait davantage de Christ. Les pharisiens voulaient exciter cette compétition, mais il nous est dit qu'ils avaient entendu dire que Jésus commençait à faire plus de disciples que Jean. Ah, ils vont pouvoir utiliser ça pour semer la zizanie. Mais Jésus nous dit qu'en fait, il ne baptisa pas lui-même. Jean nous dit que Jésus ne baptisait pas lui-même, c'était ses disciples qui le faisaient. Ça, c'est aussi, on en a parlé déjà, l'idée que pour être sauvé, il faut croire, il faut mettre notre foi en Jésus-Christ et être baptisé. Si c'était vraiment le cas, Jésus aurait fait baptiser le brigand sur la croix, puisqu'il lui disait « Ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Mais aussi, si c'était le cas, s'il fallait vraiment baptiser, Jésus l'aurait fait lui-même. Il se serait assuré qu'il est venu pour notre salut. S'il fallait que le salut passe par le baptême, non, le baptême, c'est une obéissance au précepte de Jésus. Dans Jean 28, il dit « Allez baptiser les nations, faites d'eux des disciples dans tout le monde, dans le monde entier ». Et donc cette doctrine qu'il faut passer par le baptême pour être sauvé, c'est une fausse doctrine. Et l'idée d'associer le baptême et le salut, c'est parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se marie, il y a 15 ans, lorsque Sébastien et Élie se sont mariés, je me rappelle très bien, lorsqu'ils se sont passé la bague au doigt. S'ils n'avaient fait que ça, se passer la bague au doigt, ils n'auraient pas été mariés devant Dieu. C'est simplement le fait que lorsqu'on se marie, on accompagne ça d'un geste, avec une bague. Lorsque l'on met sa foi en Christ, Jésus nous demande d'accompagner cette croyance par un geste extérieur pour nous-mêmes et aussi pour notre entourage, pour les gens devant qui on se baptise. Voilà, juste une parenthèse. Et là, Jésus ne veut pas qu'il y ait de dispute, qu'il y ait de compétition entre lui et Jean-Baptiste. Il connaît Jean-Baptiste qui était un parent de lui. Et il sait qu'il n'y a pas de compétition entre eux. Donc il va, si vous voulez, la géographie de la Judée, si vous pensez à trois carrés, ça c'est pour l'école du dimanche, couper des carrés, il y a trois carrés empilés. En bas, il y a la Judée, en haut, il y a la Samarie, et au milieu, plutôt en haut, il y a la Galilée, et au milieu, il y a la Samarie, juste pour que vous ayez une idée. La Samarie, les Samaritains n'avaient pas une bonne réputation. Ils étaient méprisés par les Juifs, et ça, c'était parce que ils n'étaient pas considérés comme une race pure. Ils étaient à la fois juifs, mais aussi gentils, païens. En 727 avant Jésus-Christ, les Assyriens avaient envoyé en captivité les 10 tribus du Nord, ceux qu'on appelait justement, qui avaient pour capitale de royaume du Nord, Samarie. Donc les Samaritains avaient été envoyés en captivité, les Samaritains par les Assyriens, et en Assyrie, ils avaient fait des mariages mixtes, et ils avaient perdu, entre guillemets, leur pureté raciale. Les Juifs, eux, avaient été emmenés en exil en 586 par les Babyloniens, mais par contre, eux, ils n'avaient pas procédé à des mariages interraciales. Ils avaient gardé, entre guillemets, encore une fois, une pureté raciale qu'ils reprochaient aux Samaritains d'avoir perdue. Les Samaritains, c'était après le règne de Salomon, le royaume avait été divisé en deux parties. Le sud, c'était la Judée avec Jérusalem, où il y avait le temple. Au nord, la Samarie, ils avaient construit un temple sur le mont Garizim. Et ce temple avait été depuis détruit. Mais les Juifs qui devaient passer du carré du bas, la Judée, jusqu'au carré du haut, la Galilée, ils faisaient un détour, soit par la côte, soit ils passaient de l'autre côté du Jourdain, et ils montaient et ils revenaient en Galilée. Il est dit ici qu'ils devaient traverser la Samarie. Les traductions, des fois, peuvent influencer votre compréhension dans un mauvais sens. Comme il devait traverser la Samarie, on dit « Ah bah oui, puisqu'il était en bas, il voulait aller dans le carré du haut, il fallait qu'il passe, il devait. » Non, c'était « Il était ordonné par Dieu. » Il y avait une pression divine sur le fait qu'il devait passer en Samarie. Lorsque vous priez pour témoigner à quelqu'un de votre foi, Dieu peut mettre ce qu'on appelle des rendez-vous divins. Et chaque fois que nous allons faire un stand, avec un stand mobile ou avec le stand devant la fac, nous prions pour qu'il y ait des rendez-vous divins. Alors on peut dire franchement que ce n'est pas à tous les coups qu'on a des rendez-vous divins, mais il y a souvent des moments où on se dit « on devait bien être là ». Il y a plusieurs années de ça, ça remonte, ça fait longtemps qu'on fait ce stand. Je me souviens de la fois où j'étais seul et la personne qui était avec moi avait dû partir. Et des fois, on est bien seul quand on fait le témoignage comme ça, avec des Bibles sur une table, de la littérature, des traités. Et je me disais, mais en fait, on ne voit pas beaucoup de fruits. Ça ne sert pas à grand-chose d'être là. J'étais un peu en mode déprime, quoi. Évangélisation déprimée, ça ne marche pas beaucoup, quoi. Si vous avez la tête... Hein. Oh oui, le Seigneur va vous aimer. Vous allez voir, votre vie va être transformée. Et quelle heure! Et pendant que j'avais ce genre de pensée, j'ai quand même remarqué qu'il y avait une jeune fille qui était passée, puis qui était repassée, et puis qui était repassée encore. Je dis, c'est bizarre, parce qu'il n'y avait pas de distributeur de coca derrière moi, ou de... Et je suis lent, mais quand le Seigneur insiste, à la fin j'y arrive. J'ai dit « Bonjour, vous cherchez quelque chose ou... ?» Et la jeune fille me dit « Vous êtes chrétien ?» C'était une jeune fille d'origine maghrébine. Je lui dis « Oui, oui, on a des Bibles. » Et elle me dit « Je peux vous parler ?» Je lui dis « Mais je suis là pour ça, j'attends depuis... » Depuis un bon moment que quelqu'un veuille bien me parler. Elle me dit, en fait, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai rendez-vous demain pour un avortement. Et elle me dit, chaque fois que je vois un enfant, maintenant je pleure, parce que je sais que je vais avorter cet enfant, et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je lui dis, mais bien sûr, on va vous faire parler. J'avais Nancy et Elisabeth sont heureuses de vous parler. Et finalement, l'enfant a vécu. Petite Enzo, en bonne santé, est né. Et c'était le même, il fallait que je sois là. Le Seigneur aurait pu utiliser quelqu'un d'autre, mais vraiment j'avais ce sentiment, je devais être là tout seul, même à me morfondre. On a perdu la trace de cette maman et de son fils, mais les dernières nouvelles, il avait grandi, il doit avoir maintenant, ça doit être un adolescent de 15 ans ou plus. Le Seigneur avait dit à Jésus, va en Samarie, et là, il se trouvait sur, pas dans la rue encore une fois, mais sur la margelle d'un puits, le puits qui avait été creusé par Jacob. C'était un puits profond d'une trentaine de mètres dans la région de Samarie. Et là, une femme vient puiser de l'eau. Elle a dû venir directement, elle n'est pas passée plusieurs fois devant. Mais le fait qu'elle vienne chercher de l'eau à midi en plein cagnard, en plein soleil, ça suggère qu'en fait c'était une femme qui n'avait pas d'amis. Normalement, les femmes allaient ensemble chercher de l'eau le matin ou le soir. C'était le moment de tchatcher, de parler de votre vie. Mais là, elle était de toute évidence isolée. Elle était samaritaine, et les samaritains, il y en avait d'autres bien sûr, mais aujourd'hui encore, il reste des samaritains. Il n'en reste plus qu'un millier, et on dit qu'ils sont en train de disparaître à cause d'intermariages qui font qu'ils sont en mauvaise santé. Mais là, elle venait chercher de l'eau. Et un premier exemple de ce que Jésus fait, il l'aborde avec une douceur agressive. Agressif, il ne faut jamais être agressif quand on fait de l'évangélisation. Agressif dans le sens où c'est lui qui démarre la conversation et qui l'engage. Il lui demande « Donne-moi à boire ». Il trouve un point commun. Elle vient en plein cagnard chercher de l'eau pour elle et les siens. Et Jésus veut lui parler de la soif profonde que nous avons. On peut remarquer qu'en fait, on a vu comment il s'était adressé à Nicodème lorsqu'il lui avait parlé de la vie nouvelle. C'était aussi une façon d'aborder quelqu'un. La personne était venue le trouver, mais c'était aussi de l'évangélisation. Et c'est tout de suite plus intéressant l'évangélisation lorsque, au lieu de juste donner des papiers aux gens, on les engage dans une conversation. Et pour engager une conversation, il faut trouver un point commun. Il faut vite voir ce que la personne fait. Et on a un ami, Marcel Marchioni, qui aime beaucoup parler aux gens dans la rue. Et lorsqu'il est en train d'évangéliser, il va voir une femme passer avec un petit chien. Il va dire « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, votre petit chien !» Alors, ce n'est pas du mensonge, c'est vrai qu'il est... Mais il engage la conversation, il dit « Ah ben moi, j'en avais un qui est mort il y a 2 ans, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, et comment, il a quel âge ?» Et la personne commence à parler. Et puis, il va dire « Vous ne savez pas ce que je fais ici ?» Non, ben, tenez, je vous donne des petits messages qui parlent de Jésus-Christ qui vous aime. Et ainsi de suite. Là, Jésus agresse « Donne-moi de l'eau. » Il ne le dit pas sur ce ton-là. Et la femme samaritaine est surprise par son attention. On vit dans des villes de grande solitude, comme dit la chanson. Et parce qu'on est beaucoup à se bousculer, à se croiser, à essayer de passer devant l'autre, on pense qu'on est tous heureux et plein d'amis. En fait, quand on y regarde bien, il y a des gens qui sont très solitaires, qui n'ont pas d'amis. Et lorsqu'on s'intéresse à eux, lorsqu'on leur parle, alors il faut que ce soit sincère, hein, et pourquoi pas être sincère, tous les hommes et femmes, quelque race, quelque sexe soit-il, sont des trésors de création de Dieu. Ils ont quelque chose à nous apprendre, ils ont des choses intéressantes dans leur vie. Elle est surprise qu'il s'intéresse à elle et qu'il lui parle. Encore une fois, il nous dit, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Elle lui dit, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine, mais qui suis une femme. Ce n'était pas dans la culture juive de l'époque pour un homme de parler à une femme qu'il ne connaissait pas. Il y avait même une secte des pharisiens, un groupe des pharisiens qui était appelé les pharisiens sanglant et bousconné. Parce que s'il voyait une femme dans la rue, il fermait les yeux, il se prenait le poteau, les murs. Donc ça, c'était les plus saints, parce qu'ils ne regardaient pas les femmes qui passaient devant eux. Et elle est surprise. Et Jésus commence... Elle le traite d'abord de juif. Toi, tu es juif. Pour elle, c'est un juif. Et puis Jésus lui dit, si... Là, il va plus loin, il progresse. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Là, il va plus loin dans l'analogie. Il va passer, comme il le faisait avec Nicodème, de choses pratiques à des choses spirituelles. Et c'est ce qu'on peut faire aussi quand on parle avec les gens. Il est mignon, votre petit chien. C'est très pratique. Mais je suis ici, en fait, pour quelque chose d'une autre dimension. Et il lui dit, si tu savais le cadeau de Dieu, tu m'aurais demandé à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Il parle de lui à la troisième personne, pour l'instant, pour garder un peu le mystère. Et l'eau vive, c'était par contraste avec l'eau qui était dans des citernes. C'est la différence lorsque vous êtes en randonnée, que vous avez de l'eau tiède dans votre gourde en plastique, qui a une forte odeur de plastique, et puis la petite source qui coule sur le chemin et que vous pouvez boire sans crainte parce que c'est assez haut. Et là, c'est de l'eau vive. C'est de l'eau qui est fraîche, de l'eau vive. Tout à l'heure, on a chanté, en fait, ce chant, on a dit « Viens tel que tu es, écoute l'Esprit. Goûte à l'eau vive et tu n'auras plus soif. » C'est ce qu'il lui dit. C'est intéressant parce qu'elle est encore au plan terre à terre et lui a déjà commencé à parler de choses spirituelles, mais il se révèle progressivement. Et ça, c'est aussi une chose, lorsqu'on fait de l'évangélisation, même dans la rue, on a tendance à vouloir faire signer tout de suite la personne « Je crois en Jésus », etc. En fait, il est bon de présenter, de donner soif, et après, en fonction de la personne, voir si elle est prête ou pas, mais ne pas penser qu'on perd notre temps ou qu'on n'a pas fait ce que le Seigneur veut si on n'a pas demander à la personne de se mettre à genoux, de prier, de se repentir de ses péchés. Et elle reste encore terre à terre, même terre sous terre. Elle dit, si elle me donnait de l'eau, c'est une femme, on va voir, qui a une mauvaise vie, une femme de mœurs légères. Elle est sans doute habituée à plaisanter avec les hommes, à être un peu impertinente. Elle dit, tu veux me donner à boire? Tu n'as même pas une corde, tu n'as même pas de quoi puiser. Et c'est un puits profond, il fait 30 mètres de fond. D'où viendrait cette eau vive? Et puis là, pour lui rabaisser le calcul, elle dit, tu ne sais pas qui c'est qui a fait ce puits-là? C'est Jacob, notre ancêtre. Est-ce que tu serais plus grand que lui? Non, des fois par hasard. Et pour elle, c'est évident qu'il n'est pas au même niveau que Jacob. Et Jésus lui dit cette fameuse réponse, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme répond, « Ah, ça c'est bien, alors si j'ai plus besoin de venir à la... au puits, en plein cagnard, j'achète. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Ah, ça, c'est génial, ça, cette eau vive que tu veux me donner, là. Vas-y, hein, c'est... Jésus passe de la soif matérielle, de la soif physique qu'il nous faut étancher. C'est une question de vie ou de mort. On sait qu'on peut rester 40 jours sans manger, mais que 3 jours sans boire, on dépérit jusqu'à la mort. Dieu, Jésus, savent que la soif matérielle, ou même la soif de satisfaction qui est dans le cœur de tout homme, de toute femme, fait que « I get no satisfaction ». Il y a des fois des paroles profondes dans la pop musique. « I can get no satisfaction ». Je ne peux pas être satisfait. Et c'est vrai que, peut-être vous vous souvenez, lorsque vous étiez enfant, vous aviez vu avant Noël cette voiture qui marchait avec une lumière à distance. Moi, c'était la voiture cybernétique. C'était dans les années 60. Ça coûtait 160 francs. C'était un rêve inaccessible. Et je pense, on pouvait faire avancer une voiture en braquant une lampe de poche dessus. Il y avait des cellules photoélectriques. Il faisait avancer un petit moteur. Et donc, on pouvait se faire suivre par une petite voiture. Pour moi, c'était un jouet merveilleux. Avec mes parents, on allait voir les jouets, mais c'était un rêve inaccessible. Et on se dit, si jamais j'avais ce cadeau, plus jamais dans ma vie, je voudrais autre chose. Après, j'ai fait ça avec des ordinateurs. Au début des ordinateurs, il y avait juste une ligne de commande avec le DOS. C'était blanc sur fond noir. Ou alors le dernier cri, c'était vert pâle sur fond vert. Waouh ! Ah, si seulement j'avais un ordinateur pareil. Plus jamais je voudrais un autre ordinateur. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai heureux. Et puis on a ces objets, on a ces trucs, et puis il y a une nouvelle forme d'ordinateur qui apparaît, il y a des couleurs, et on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. C'est le ressort de notre économie, la publicité, le fait de vouloir des choses qu'on n'a pas encore, mais si on les avait, ce serait le bonheur. Trini Lopez chantait « Si j'avais un marteau, ce serait le bonheur. » Je me date. Jésus veut lui faire prendre conscience de cette soif intérieure qu'elle a de Dieu. Et il l'interpelle et lui dit « Va chercher ton mari. » Et puis je te donnerai de cette eau et reviens ici. Et là, elle est piquée au vif et elle admet, elle avoue, je n'ai pas de mari. Et Jésus utilise un don du Saint-Esprit, c'est bien sûr le Fils de Dieu, mais là, sur terre, quand il a fait son ministère, il utilisait les dons du Saint-Esprit que l'Esprit Saint lui donnait, qu'il peut nous donner à tous. Si nous les demandons, si nous en avons besoin, ce qu'on appelle le don de connaissance. Il sait, sans l'avoir jamais rencontré, qu'en fait c'est une femme qui a eu 5 maris et que celui avec lequel elle vit maintenant n'est pas son mari. Et il lui dit, c'est vrai, l'homme avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis la vérité, mais tu n'as pas dit que tu avais eu 5 maris. Et là, elle est époustouflée, elle lui dit, « Ben, je vois que tu es un prophète. » Cette action du Saint-Esprit a permis de toucher la femme là où ça fait mal. C'est une femme qui n'est pas douée dans les relations humaines. Elle est sans doute une belle femme pour avoir eu tant de succès auprès des hommes, mais elle n'est pas fichue de rester avec une personne. Elle a toujours cette soif d'autre chose, cette soif d'une autre personne. Et là, qu'est-ce qu'elle va lui dire ? Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Donc c'était l'histoire des Samaritains par rapport aux Juifs. Les Juifs allaient adorer au temple à Jérusalem et les Samaritains allaient sur le mont Gérasim en Samarie. Et elle commence une question de théologie un peu. Vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Ça, c'est souvent la réaction des gens lorsqu'on en parle du Seigneur. Ils vont vous poser des questions pour faire du brouillard, pour masquer la situation. Ah, Jésus m'aime et veut que je lui donne ma vie, mais qu'en est-il des pauvres indigènes au fin fond de l'île où ils n'ont jamais entendu parler de Dieu ? Des questions pseudo-théologiques où on va essayer de noyer le poisson et détourner surtout. C'est pas très facile de parler avec quelqu'un qui sait tout de vous. Il y a des gens comme ça qui peuvent avoir un regard perçant. Ça rappelle l'histoire d'un auteur chrétien anglais qui, pour montrer qu'en fait on vit tous avec un sentiment de très fort de culpabilité, qui qu'on soit, avait envoyé un petit mot à cinq de ses amis théologiens, etc., qui disaient, le mot disait simplement « tout est découvert ». Et l'histoire dit qu'en fait, cinq de ses amis sont partis de Londres, ils sont partis. On a tous des secrets qu'on ne veut pas communiquer aux autres. Et les gens essayent de détourner la question. Jésus lui répond, femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit donc que lui est juif et qu'ils connaissent mieux la vérité parce qu'ils ont une connaissance de la parole meilleure que celle des Samaritains. Mais il dit que c'est pas une question de formes extérieures, de savoir si on va adorer dans un tel bâtiment, à tel endroit, à Jérusalem ou sur telle montagne. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'adorer Dieu en esprit. Dieu est esprit. En esprit, en réalisant que c'est un esprit qui est partout présent, qui est éternel, qui est bienveillant aussi. Ça, c'est la merveille de la foi chrétienne. Et en vérité. On peut se demander... Il y a différents styles de louanges. On peut louer. Donc, si on prend les deux catégories, esprit et vérité, le mieux, c'est d'adorer en esprit, oui, et en vérité, oui. Et ça, c'est plaisant à Dieu. C'est le culte que Jésus veut qu'on lui rende. Est-ce que dans votre esprit, vous adorez Dieu basé sur la vérité qu'on trouve dans la parole ? Une autre façon, c'est d'adorer en esprit, mais non pas en vérité. Parce qu'on donne peut-être autant d'importance aux traditions qu'à la parole. On suit des préceptes humains, des traditions. Jésus dira, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. On peut avoir même en louange, en musique, des chants qui sont presque sensuels, des chants qui ne montrent pas de respect pour Dieu, qui sont tournés vers nos propres besoins. On remercie pas Dieu pour qui il est. On lui demande toujours, toujours de nous donner. On peut adorer en vérité, connaître la parole, mais pas vraiment en esprit. À ce moment-là, notre louange va manquer de joie. Il ne va pas y avoir la présence de Dieu si l'esprit n'est pas là. Et puis, on peut adorer ni en esprit, ni en vérité. Et là, c'est une abomination pour Dieu. Et c'est ce que font la plupart de nos contemporains. Ils adorent des idoles de la chanson. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de la parole. Mais c'est un bon test pour juger les églises où vous vous retrouvez, les mouvements d'église, et puis moi-même. Est-ce que ma louange est bonne ? La louange, ce n'est pas seulement de chanter, c'est d'avoir la relation au quotidien avec Dieu. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'elle est plaisante à Dieu ? Le test, c'est est-ce qu'elle est en esprit et en vérité ? Les deux doivent être présents. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est une expression que j'utilise souvent. Pas que je sois un modèle, malheureusement, mais c'est ce que Jésus nous recommande. Et puis la femme continue. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Donc elle avait certaines connaissances. Celui qu'on appelle Christ, loin de Dieu, L'OINT, quand il sera venu, il nous annoncera tout. Là, Jésus a abordé la femme, il lui a posé des questions, il lui a donné envie d'en savoir plus, il lui a parlé de cette eau magique, l'eau vive, et puis il lui a dit qu'en fait ce qui comptait c'était d'avoir une relation en esprit et en vérité avec Dieu. Et puis là, il se révèle à elle. Je le suis, moi qui te parle. C'est difficile à imaginer le choc. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous, quand on fait de l'évangélisation. On ne peut pas dire, voilà, il y a quelqu'un qui va venir et moi, je suis celui qui te parle. Non, je connais celui qui te veut te donner à boire. Là-dessus arrivent les disciples. Donc on a eu une progression. Au départ, c'était... On va lire. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Ce n'était pas cool. Mais en même temps, personne ne soupçonne qu'il y ait pu y avoir de mauvaises intentions dans le cœur de Jésus avec une femme seule, sans personne autour de lui. Personne ne lui demande... Pourquoi tu parles avec elle-même ? Alors la femme laissa sa cruche. Et ça, c'est aussi un petit détail qui nous montre que ça a été visualisé. La personne, Jean, l'évangéliste, a vu cette cruche par terre qui restait. Sinon, si on essayait de faire une belle histoire, on n'aurait pas pris la peine de noter ce détail. C'est un détail de quelqu'un qui a vu la scène. Parce que depuis le temps, en fait, ni elle, ni Jésus n'ont bu. Contrairement à moi, j'ai pris une gorgée d'eau. Mais eux, ils sont toujours... parce que maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Elle laisse sa cruche, elle s'en va dans la ville et dit aux habitants... Venez me voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? L'évangélisée devient évangélisatrice. Alléluia, quand ça fait ça. Une autre personne à qui on témoignait à la faculté est maintenant en école biblique aux États-Unis. Elle vit pour le Seigneur. Là aussi, c'est merveilleux lorsqu'on voit que la chaîne continue. J'ai reçu, j'ai donné, et ça continue. Elle va, elle est touchée, et en même temps, elle a reçu quelque chose de Jésus, et elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce qui m'a toujours frappé dans cette expression, c'est qu'en fait, tout ce qu'il lui a dit, c'est qu'elle vivait dans le péché. Mais pour elle, c'était un poids. Et souvent, nos pensées sont accaparées par les choses que nous regrettons, les péchés que nous avons pu commettre. Et c'est une telle libération lorsqu'on peut amener ces péchés à Jésus et qu'il nous pardonne nos iniquités par le sang qu'il a versé à la croix. Et là, Ils ont parlé un petit peu, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été rapportées, mais tout ce qu'elle avait fait, c'était plus que d'avoir 5 maris et de vivre avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Et entre parenthèses, cette remarque de Jésus nous montre qu'il n'est pas pour le concubinage, le mariage pour tous, le mariage transgenre et toutes ces choses-là. Non, le mariage, c'est sacré, c'est devant Dieu, même s'il faut maintenant le faire aussi devant les hommes à la mairie, mais c'est devant Dieu que ça se passe. Et de dire on vit ensemble à l'essai, toutes ces choses-là, c'est pas la volonté de Jésus. Et vous avez remarqué le ton qu'il a avec elle, il l'a pas condamnée. Il n'a pas dit « Femme de mauvaise vie, qu'est-ce que tu fais? C'est un scandale, tu iras dans les flammes de l'enfer. » Non, il a dit « Viens boire de l'eau. Viens boire de l'eau vive. » Et c'est aussi ce que nous devons dire aux gens. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que vous regrettez? Des choses à laquelle vous pensez souvent? Si vous pouviez faire un contrôle Z, effacer et recommencer, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Ces choses-là, vous pouvez faire un contrôle Z avec Jésus. Contrôle Z, c'est un terme en informatique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui vous permet d'effacer les dernières choses que vous venez d'ajouter à votre écran. Et merci Seigneur pour le contrôle Z en informatique et encore plus par le sang de Jésus-Christ. Le contrôle Z. Et là, elle dit, ne serait-il pas le Messie? Donc on voit qu'il y a une progression dans la façon dont Jésus a présenté les choses. Au début, c'était un juif. Puis verset 15, elle lui parlait de Seigneur. Verset 19, c'était un prophète. Et puis là, verset 29, elle le reconnaît ou elle soupçonne fortement que c'est bien lui le Messie. Et là, ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pourquoi ? Parce que eux aussi ont soif. Eux aussi attendent le Messie. Même si ce sont des Samaritains, même s'ils vivent dans le péché. Et c'est beau de voir qu'en fait, Jésus se révèle aux autres des fois par les moins dignes de ces hommes ou de ces femmes. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui reçoit toute la gloire. Ce n'était pas une petite sainte nitouche, comme on dit vulgairement en français, une petite sainte nitouche qui leur a dit « Oh, vous devriez venir voir le Seigneur. » Il m'a tout dit. Je crois bien que c'est le Messie. Et aussitôt, tout le monde suit. Et si nous, on a cette conviction qu'on parle de Jésus comme du Messie, de celui qui pardonne nos péchés. Souvent on dit, oh, il ne faut pas parler de péché, ça fâche les gens. Les gens, je vous garantis, quand on leur parle, ils savent qu'ils ont des péchés. Souvent ils vont les excuser en disant, mais personne n'est parfait. Amen, mais le Seigneur veut que nous soyons parfaits. Qu'est-ce que vous allez faire? On continuera à voir la réaction de ces Samaritains la semaine prochaine, prions. Seigneur, merci pour cet exemple d'évangélisation où tu as su donner des éléments qui ont intéressé la personne, qui ont touché son cœur, Seigneur. Je prie que tu nous aides dans notre évangélisation personnelle, que ce soit dans nos familles, auprès de nos collègues de travail, auprès sur la margelle d'un puits ou dans la rue, que tu nous donnes ta sagesse, ton amour, surtout ta compassion pour les âmes, Seigneur. Qu'on réalise que ces personnes qui peuvent nous sembler riches, beaux, jeunes, en bonne santé, bien portants, et que tout va pour eux, Seigneur, s'ils ne te connaissent pas, ils ne connaîtront pas Dieu, ils partiront pour les souffrances éternelles de l'enfer. Et qu'en toi, Seigneur, nous avons le salut de nos péchés. Aide-nous à en être convaincus nous-mêmes pour pouvoir en parler avec conviction à ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à venir des évangélistes ou à cultiver ce travail d'évangéliste. On est tous appelés à le faire. Parler de toi en disant tout le bien que tu amènes dans nos vies, Seigneur, en commençant par ce pardon des péchés, cette joie profonde qui nous transforme lorsque nous te connaissons en esprit et en vérité. Sois béni, Seigneur, en nom de Jésus. Amen.